Ils étaient 12 pêcheurs, avec chacun leur personnalité propre, leurs convictions et leur besoin de connaître Dieu. Et ils sont toujours 12. Ils ont maintenant leur tête placardée à l'entrée de tous les bureaux de vote. Le premier tour de l'élection présidentielle que nous vivons aujourd'hui coïncide avec le dimanche dit des rameaux, ce dimanche où on fait mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Monté sur un ânon, Jésus est acclamé comme un roi. Et c'est bon, alors que nous sommes appelés à glisser un bulletin dans l'urne, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, c'est bon de nous rappeler qui est notre roi. Mais vous l'aurez peut-être noté, il y a un hic, et ce hic, c'est que du pinacle sur lequel le peuple l'a porté à son entrée à Jérusalem, Jésus va descendre tout au long de la semaine jusqu'à la croix. Le dimanche, il est acclamé, et le vendredi suivant, il est crucifié. Et dans l'intervalle, un curieux manège va se jouer lors du simulacre de procès qui va se tenir pour finalement le condamner. Un curieux manège entre le pouvoir religieux, le pouvoir politique et Jésus lui-même. Et au moment où on s'apprête à élire celui ou celle qui va conduire le pays, il y a, je crois, quelques leçons à tirer. Le contexte du texte qu'on va lire bientôt est le suivant. Jésus se fait arrêter et puis il est d'abord emmené auprès de Caïphe, le grand prêtre, qui va l'interroger. Et en vérité, ceux qui l'ont traîné là l'ont déjà condamné à mort pour blasphème parce qu'il s'est fait le fils de Dieu. Et les pharisiens comprennent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus se présente comme étant de nature divine. Et pour ça, il mérite la mort. Seulement voilà, la Judée est sous occupation romaine et les pharisiens ne font pas la pluie et le beau temps en matière de loi. Ils n'ont pas le pouvoir de faire mourir Jésus. Et c'est pour ça qu'ils emmènent Jésus ensuite devant Pilate, le gouverneur romain de la Judée. Et c'est ce qu'on va lire maintenant, on va voir ce qui se passe ensuite dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. Jean 18. Et je vais lire à partir du verset 29, et je lirai jusqu'au chapitre 19, verset 22, un passage un peu long qui nous raconte tout ce qui s'est passé là, notamment entre Jésus, les pharisiens et Pilate. Pilate sortit vers eux, donc Jean 18, verset 29, Pilate sortit vers eux et dit: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit donc: « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. » Ceci afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit: « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit: « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: toi, tu es donc roi? Jésus répondit: c'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit: moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque, décidez donc, vous relâcherai-je le roi des Juifs ? Alors ils se remirent à crier: pas cet individu, mais Barabbas. Or Barabbas était un bandit. Alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui mirent sur la tête et ils l'habillèrent d'un vêtement de pourpre. Il venait à lui en disant « Bonjour, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors « Tu ne me parles pas à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena donc Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit « le pavé », en hébreu « Gabata ». C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Il dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent « À mort ! À mort ! Crucifie-le » Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus. Portant lui-même la croix, il sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Seigneur, à nouveau, nous te remercions pour ta parole. Nous savons que ta parole est vie, qu'elle apporte la vie, Seigneur. Nous te prions d'ouvrir notre entendement pour que nous puissions la comprendre avec notre tête, mais surtout avec notre cœur, et qu'elle nous mette en mouvement. Amen. Le procès qui a condamné Jésus a tourné autour de la question de sa royauté. Et à ce sujet, Jésus fait une affirmation au verset 36 du chapitre 18. Il dit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Et en fait, ça n'arrange pas tellement les affaires de Pilate, cette réponse. On sent bien au long de ce récit qu'il a quand même un mal fou à comprendre ce qu'il vient faire dans cette histoire. Il n'a pas l'air de se sentir très concerné. Alors il essaye de se raccrocher à ce qu'il connaît, et ce qu'il connaît, c'est le pouvoir politique. « Es-tu le roi des Juifs ?» Parce que ça pourrait être inquiétant, ça pourrait être motif de condamnation pour lui. Si Jésus se présente en chef politique, alors il y a menace pour le pouvoir romain. Mais qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui vous dit « Mon royaume, il n'est pas de ce monde ?» Parce que Pilate, lui, il est bien de ce monde. Et du coup, Pilate, il ne sait pas trop quoi faire. Il ne trouve pas de motif de condamnation. Et pourtant, il finira par le condamner. Alors en quoi est-ce que c'est intéressant au moment de glisser notre bulletin dans l'urne de nous rappeler que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde ? C'est intéressant parce que ça nous permet d'éviter, je crois, deux tentations bien réelles. La première tentation, c'est la tentation de la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Cette mise en accord entre ces deux pouvoirs, au détriment d'un tiers, en l'occurrence de Jésus. Les pharisiens ont une loi. Je vous demande pardon, j'ai un petit problème que je vais régler. Les pharisiens ont une loi. Et selon cette loi, ou selon leur interprétation de cette loi, en tout cas, Jésus doit mourir. Et les Romains aussi ont une loi. Et selon cette loi, il n'y a pas de motif de condamnation concernant Jésus. Si les Juifs n'ont pas le pouvoir de l'épée, comment alors se fait-il que Jésus termine tout de même crucifié ? Le pouvoir politique, dans un premier temps, se laisse infléchir, probablement, j'imagine, en tout cas, pour calmer les ardeurs de la foule. Jésus est fouetté, il est ridiculisé, on le grime en un espèce de roi ridicule, et puis on le présente à la foule en disant « Regardez votre roi, regardez cette prétention qu'il a, à quoi elle est réduite ?» Et un argument spirituel est d'abord présenté à Pilate. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que cet argument ébranle Pilate. Et on a l'impression que c'est dans le bon sens. On nous dit que sa crainte augmenta. Au fond, qui est vraiment ce Jésus ? Et Pilate va tenter de l'éprouver. Tu sais que je peux te relâcher ? Tu sais que je peux te faire crucifier ? Mais Jésus reste droit dans ses bottes. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et suite à ça, Pilate cherche à le relâcher. Mais il y a un deuxième argument, politique cette fois, qui va lui être présenté. Si tu le relâches, t'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et ça, ça fait mouche. Ça fait mouche parce que cette fois, c'est pas Jésus qu'on accuse. C'est Pilate. C'est lui qui est sous le coup d'une accusation. Le pouvoir spirituel ici se compromet à tel point avec le pouvoir politique que lorsque Pilate dit « Vais-je crucifier votre roi ?», les grands prêtres répondent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Et ça, c'est pas de la soumission aux autorités. Ça, c'est une allégeance pure et simple. En d'autres mots, c'est un blasphème. C'est quand même ironique de voir que c'est par un blasphème que Jésus est condamné pour blasphème. Et ça marche. Pilate va faire crucifier Jésus alors même qu'il ne trouve lui-même aucun motif de condamnation. Ce désir du pouvoir spirituel de s'imposer sur le pouvoir politique se retrouve jusque sur l'écriteau que Pilate a fait installer sur la croix. Il fait écrire « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs » et les grands prêtres essaient à nouveau de peser. « N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit « Je suis le roi des Juifs ». Et cette fois, mais c'est un peu tard, Pilate ne cédera pas. Et Jésus dans tout ça ? Eh bien Jésus nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Les lois de ce monde ne coïncident pas avec les lois du royaume. On a souvent l'occasion de s'en rendre compte et de s'en lamenter. Mais c'est une erreur, je crois, de croire que le pouvoir spirituel peut s'imposer au monde par les lois politiques. Si nous souhaitons voir les lois du royaume à l'œuvre dans le monde, ça n'est pas vers Pilate qu'il faut nous tourner, c'est vers Dieu. Le prophète Jérémie, il parle à un peuple en exil, à un peuple qui n'est pas sur sa terre, qui est donc sous le joug d'une nation étrangère, et il va lui dire, en Jérémie 29, verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Jésus, quant à lui, dit aussi que le royaume de Dieu s'est approché, qu'il est au milieu de nous. Le royaume de Dieu, ce sont tous ces lieux où Jésus règne. Et s'il règne en nous, nous sommes ses ambassadeurs partout où nous nous rendons. Et ce royaume, à quoi ressemble-t-il ? Il ressemble, nous dit Jésus, à une graine de moutarde, toute petite. Et cette graine devient un arbre énorme. Alors c'est amusant parce que la graine de moutarde, je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches sur cette fameuse graine de moutarde qui devient un arbre énorme, mais en fait, une graine de moutarde, ça ne devient pas un arbre énorme. Normalement, ça devient un arbuste. C'est enfin, le moutardier, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suppose que c'est ça, un moutardier. C'est un arbuste. Ce qui fait dire d'ailleurs aux détracteurs des évangiles que Jésus raconte n'importe quoi en fait. Il se trompe, il est dans l'erreur si vous voulez. Mais ce qui fait dire aux chrétiens que nous sommes, je crois, que le royaume de Dieu, en fait, est surnaturel, que le fruit qu'il porte est sans commune mesure avec ce qu'on pourrait légitimement en attendre, parce que notre Dieu, c'est celui de la traversée de la mer Rouge, c'est celui de la multiplication des pains, c'est celui de la résurrection des morts. Vous ne nourrissez pas une foule avec 5 pains et 2 poissons. Ça ne marche pas. Ben avec Jésus, ça marche. Le Seigneur a fait de nous, par son Esprit Saint, le sel de la terre et la lumière du monde. Et en conséquence, et quoi qu'en disent les politiques, et quelle que soit la façon dont les uns ou les autres peuvent essayer de tirer la couverture à eux, il n'y a pas de vote chrétien. Par contre, il y a des chrétiens qui votent. Il y a des chrétiens qui votent. Et une fois n'est pas coutume, vous ne m'entendrez pas souvent faire ça, mais je vais paraphraser Pilate en vous disant, les 12 qui se présentent, prenez-les vous-même et jugez-les selon votre loi. Et j'ajoute, bon courage dans votre discernement, parce que ce n'est pas un exercice facile. La deuxième tentation est un peu la petite sœur de la première, et c'est la tentation de porter un candidat au rang de sauveur. Alors je suppose qu'on peut se dire que pas de ça chez nous, on ne risque pas de tomber dans ce travers-là. On va quand même méditer un petit peu sur ce texte en se demandant qui a le pouvoir dans cette histoire. Observons un peu la confusion qui règne dans les esprits. Pilate présente Jésus au peuple. « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Et la réponse, c'est « Non, pas lui, Barabbas. » Vous savez comment s'appelle Barabbas ? Matthieu 27 le précise, il est un peu plus précis dans l'évangile de Matthieu. Il s'appelle Jésus Barabbas. Alors Jésus, on sait, ça veut dire sauveur. Et Barabbas, ça veut dire fils du Père. Jésus, le fils du Père. Le sauveur, fils du Père. On a ici une élection. C'est une élection. On nous donne deux candidats. Il faut voter pour celui qu'on va libérer ce coup-ci. Et l'élection se tient entre, d'un côté, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus, fils de Dieu, que Pilate présente lui-même comme le roi des Juifs, et puis de l'autre côté, un brigand, un voleur, présenté à la foule comme Jésus Barabbas, comme sauveur, fils du Père. Et la foule, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle choisit la contrefaçon. Elle choisit le fils de son père à elle, Satan, le père du mensonge. Ce fils du Père-là, c'est un brigand, c'est un voleur. Alors, il y a de quoi s'inquiéter quant à la capacité de discernement du peuple. Et ne soyons pas trop pressés de nous extraire de ce peuple et de le regarder de haut, parce que ce peuple, c'est le même qui a acclamé Jésus 5 jours plus tôt. Et Jésus, dans notre texte, semble tout faible. Du point de vue humain, il est sous l'emprise de Pilate, qui a littéralement droit de vie ou de mort sur lui. J'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier. Mais évidemment, un autre regard est possible. Pilate, nous dit Jésus, n'a aucun pouvoir qu'il n'ait reçu d'en haut. Vous connaissez sans doute ce texte de Romains 13:1 qui nous dit que toute autorité vient de Dieu et que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu et qu'en conséquence, tenez-vous bien, nous devons être soumis aux autorités. Tenez-vous bien parce que, évidemment, en temps normal, globalement, bon, on s'en sort à peu près avec ça, mais l'actualité récente nous fait dire pardon, soumis aux autorités, c'est valable aussi en Russie, ça marche aussi là-bas. Alors je vais faire 2 remarques ou 3 à ce sujet. La première, c'est que institué par Dieu, ça ne signifie pas approbation de Dieu quant à ce que les dirigeants font de l'autorité qui leur a été confiée. Les rois d'Israël ont été nombreux à ne pas faire la volonté de Dieu. Ça revient comme un refrain tout au long du livre des rois, des chroniques. Si vous faites une recherche, j'ai fait une recherche rapide, je ne sais pas si elle est exhaustive, avec cette phrase « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Vous tapez ça dans un... Maintenant, on fait... Enfin, voilà, avec les moteurs de recherche, là, on trouve ça. Vous trouvez 31 occurrences, 31 fois, dans le livre des rois et des chroniques. « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Institué par Dieu signifie que l'autorité qui est confiée aux dirigeants, ce n'est pas une autorité pour eux, pour se faire plaisir à eux, c'est une autorité qui leur est confiée pour le service de Dieu, pour être au service de la justice. Mais évidemment, on peut très bien en faire autre chose. Et dans ce cas, plus terrible sera la chute, parce que notre faute est plus grande. On a une responsabilité et on l'a détournée. C'est pourquoi, et c'est ma deuxième remarque, la question de la soumission aux autorités est plus complexe, je crois, qu'une soumission absurde à toute autorité, quoi qu'elle fasse. Mais là aussi, ça demande une sacrée dose de discernement, et c'est ma troisième remarque, parce qu'il nous faut apprendre à regarder plus loin que le bout de notre nez. Si on se limite au bout de notre nez, on fait comme Pierre lors de l'arrestation de Jésus, on sort l'épée, on coupe l'oreille du centurion. Si on se limite au bout de notre nez, on fait appel à une armée d'anges pour ne pas laisser le pouvoir inique de Pilate mener à bien la condamnation d'un innocent. Il fallait que Jésus ait la vue sacrément longue, pour se laisser crucifier par les autorités romaines. Et ce qu'on apprend ici, contrairement à ce que les apparences laissent entrevoir, c'est que ça n'est pas le pouvoir politique tenu par Pilate qui mène la barque. Ça n'est pas non plus le pouvoir spirituel tenu par les pharisiens qui mène la barque. C'est Jésus qui mène la barque. Il la mène. Et on voit ça dès le début du passage qu'on a lu, au verset 31 et 32 de Jean 18, où ce moment où Pilate dit aux pharisiens « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi », les Juifs répondent « Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un ». Et le verset 32, qu'on peut lire un peu vite, nous dit ceci. Ça s'est fait afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il allait mourir. C'est Jésus qui mène la barque. Au sujet de sa propre mort, Jésus dit en Jean 3, verset 14, « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition » et qu'ils aient la vie éternelle. Et c'est ça qui se passe devant Pilate. C'est ça qui se passe entre Pilate et les Juifs. Ce n'est pas eux qui mènent la barque, c'est Jésus qui mène la barque. Alors, je sais que entre la crise des Gilets jaunes, les 2 ans de Covid, le défi énorme du réchauffement climatique, et maintenant la guerre en Ukraine, une attention toute particulière est portée sur ces élections, peut-être plus que les autres années. Je ne sais pas comment vous le vivez. Peut-être même avec une certaine dose d'anxiété, tant le monde a changé en peu de temps. Peut-être même au point d'avoir l'impression que le salut du monde, le salut de notre pays, dépend du bulletin qu'on va mettre dans l'urne. Et à la vue du texte que nous avons lu, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est soyons responsables, puis la deuxième c'est détendons-nous. Exerçons notre discernement avec responsabilité quant à cette élection, prenons une décision, soyons sel de la terre et lumière du monde jusque dans l'isoloir, mais au moment où notre main peut-être commence à trembler parce qu'on se rend bien compte que c'est le nom d'un pécheur qu'on glisse dans l'enveloppe. Rappelons-nous aussi, qui est le roi des rois? Qui mène la barque? Qui est le seigneur des seigneurs? Qui est celui qui règne sur le monde? Parce que nous avons un autre roi que César. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. On a parlé de sa flexibilité tout à l'heure, de sa capacité à gérer les chants nouveaux. Et en fait, je leur ai demandé tout à l'heure qu'on puisse chanter « Jésus, nous te couronnons ».